Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Mégaphone où nous vous proposons de partir en balade. Et oui, la ville de Saint-Herblain où se situe notre vénérable radio organise les petites balades de Bellevue. Des temps de déambulation thématique dans ce quartier en mutation afin de l'appréhender autrement. Et nous étions à celle organisée le 8 mars dernier qui proposait de partir à la découverte des femmes dans la ville. Nantes ambitionne d'être la première ville non sexiste de France d'ici 2030 et la féminisation des noms de rue est l'un de ses pans d'action. Mais alors, que révèle la toponymie féminine de l'histoire du quartier Bellevue ? Et des actions dans la lignée de ce sujet sont-elles enclenchées dans ce quartier en pleine transformation ? Nous avons emporté avec nous ces questions et nous nous sommes laissés guider par Valérian Dénéchaud, médiateur de l'association Vous êtes ici.
Les habitants de Bellevue, toujours présents sur le terrain, reprirent la suite de l'association Bellevue 2000, créée par les travailleurs sociaux. Ils la transformèrent en association d'habitants. Le mot habitant, dans le livre, il n'arrête pas.
La déambulation commence par une lecture, celle d'un écrit de Michel Pagas, figure emblématique et militante du quartier de Bellevue. Elle fut très attachée au mot « habitant ». D'ailleurs, quels sont les objectifs de ces petites balades ? Quel lien avec les habitants et habitantes ? Sandrine Martinet, chargée de mission sur le projet Grand Bellevue, nous en dit quelques mots.
Les petites balades de Bellevue, c'est l'idée d'avoir un autre regard sur ce quartier en grande transformation. Il faut vraiment avoir en tête que c'est une transformation qui a commencé il y a 15 ans, qui va se continuer encore pendant 15 ans. Que c'est un projet pour les habitants qui à la fois vient changer leur manière de se déplacer, leur appréhension de leur paysage. Et en même temps, nous, ce qu'on a envie, c'est de continuer à permettre une vie, parfois même à remettre de la vie de quartier, notamment sur Mendès France. La spécificité aujourd'hui, c'est celle de parler des femmes qui ont fait Bellevue, notamment d'un point de vue associatif, puisque Bellevue a cette richesse associative qui est incroyable, c'est vraiment un quartier extrêmement riche de ce point de vue-là, et comment les femmes ont été au centre de ça. Elles ont porté des valeurs de solidarité, d'engagement, d'attention aux autres, et le font toujours, hein, je parle au passé, mais c'est encore grandement le cas aujourd'hui. C'est juste que là, évidemment, on est aussi dans une balade qui parle de l'histoire et qui notamment parle de la toponymie, c'est-à-dire des noms des rues qui racontent cette histoire-là.
Alors que 6,7% des rues nantaises portent un nom de femme contre 40,7% portant le nom d'homme, selon une étude du collectif À Côté réalisée en 2021, la balade du jour propose de prêter attention à la toponymie féminine du quartier.
En termes de toponymie, on va avoir tout récemment la rue Charles et Charlotte Fuller, donc qui sont des justes en fait, qu'on sauvait. Qu'on mis à l'abri pas mal de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc qui est une petite rue maintenant privée, enfin qui est toute neuve, mais une petite allée entre les nouvelles constructions, donc qui est privatisée. On n'y a pas accès. Et puis on a l'école Lucie Aubrac. Et globalement les noms, sur l'ensemble des noms de rue à Nantes, hein, pas que sur le quartier, qui portent un nom de femme, la majorité, grande majorité, c'est des femmes du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter le fil de l'histoire avec le travail des archives, de regarder quel nom on pourrait donner. Et puis globalement, on le remonte un petit peu. Et en fait, comme l'histoire lointaine ne figure pas les noms des femmes, du coup, on est forcément un peu limité, on va dire, dans le listing que peuvent proposer les archives. Mais c'est bien là l'objet de leur travail, c'est d'aller creuser justement et de trouver encore des choses en remontant plus loin. Et globalement, il faut avoir en tête qu'on a affaire à chaque fois avec des noms de femmes qui sont du XXe siècle. Là, on va se diriger vers la meilleure plaque, celle que je préfère. Vous pouvez même prendre la ligne de désir, c'est plus poétique. Elle vous emmènera vers la contre-allée de la rue Jean-Olivézy. C'est une femme et ils l'ont bien signalé sur le panneau. C'est ça que j'adore.
Alors c'est qui?
Louise Gravo. Madame Louise Gravo. Madame Louise Gravo.
Louise Gravo.
Madame Louise Gravo. Alors pourquoi madame? Bah non, je sais pas. J'ai pas... Bah en fait, elle fait partie des premières femmes qui ont été élues. Dans le sens où c'est en 45, je rappelle, hein, 45, première fois que les femmes ont le droit de vote, ont le droit du coup de se présenter sur des listes municipales. Et donc, le maire de Nantes va présenter une liste et va être élu avec donc plusieurs femmes. Il va y avoir deux adjointes et cinq conseillères, et dont parmi les conseillères, Louise Gravo, qui était une institutrice. Elle. Et toutes ces femmes, en fait, elles étaient toutes institutrices. Et en fait, institutrices, elles étaient toutes, alors soit présidentes, secrétaires du mouvement national des femmes françaises. Donc en fait, il y avait déjà cette notion. Et là, on était en 45-47, la première municipalité post-Seconde Guerre mondiale. Donc sur un laps de temps, un petit peu de transition, on va dire, et avec une position très à gauche et surtout très antifasciste. Donc c'était très fort comme message d'avoir aussi ça. Là, évidemment, tout ça n'est pas expliqué avec juste le nom de madame. Mais ça me fait
est-ce
penser...
Qu'elle, ouais. Est-ce qu'elle était institutrice, pour ça, elle est toujours madame.
Peut-être, mais néanmoins, depuis, on a donné le nom dans Nantes de rue avec les noms des autres adjointes, etc. Et elles n'ont pas le droit aux madames. Encore une impasse.
C'est une des dernières.
Ah oui.
C'est au bout de la rue, là, qu'il y a la rue Marie-Manuel.
Ah, la fameuse rue.
Voilà, l'impasse Marie-Manuel. J'ai aucune idée de pourquoi, comment. Là, j'ai pas trouvé aucune info. Marie-Manuel.
Ouais.
Et c'est une impasse, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure.
En effet, les noms de femmes occupent majoritairement les noms de petites voiries, d'impasses, tandis que les rues, ayant plus d'ampleur, sont plus souvent associées à des noms d'hommes. Les inégalités se révèlent aussi par ces qualificatifs de voix affiliés à des ordres de grandeur. Mais alors comment visibiliser, faire place au nom de femmes dans l'espace public, débaptiser, rebaptiser des lieux? C'est un questionnement qui a aussi traversé cette balade.
Après, on a parlé de Place des Lauriers, Square Michel Palace. Et je pensais que quelqu'un allait le relever, mais parce qu'on est passé devant le panneau, et puis bah du coup, je vous en parle que maintenant. Si on arrive, là, on prend la rue, on retombe sur la... Vous allez me dire qu'on retombe sur la Place des Lauriers, etc. Mais en réalité, le tram, comment s'appelle l'avenue du tram?
Simone Veil.
Non, presque, c'est l'autre Simone.
Simone.
Oui, oui,
c'est bien joué.
Simone de Beauvoir.
Oui.
C'est la rue Simone de Beauvoir.
Oui, oui.
Elle, en fait, juste la partie nantaise de place des, l'arrêt de tram Laurier, en fait. La partie nantaise du tram jusqu'à Romain Rolland, c'est la rue Simone de Beauvoir.
Oui, c'est, ça fait pas longtemps.
Exactement. Donc c'est très nouveau pour Simone de Beauvoir, donc on n'a pas encore le réflexe. Mais après, on oubliera que ça s'appelait comme ci ou comme ça. Donc il y a aussi ce jeu d'effacement, qui des fois est un jeu aussi dans certaines communes, certaines villes ou certains pays, qui est un jeu politique très fort, un enjeu même, d'effacer, de un petit peu d'invisibiliser, ou au contraire de mettre en avant des choses. Et ça pose la question qu'on évoquait là en marchant, bah, de ce qui s'est passé notamment en 2020, quand il y a eu notamment en Angleterre, aux États-Unis, énormément de débats sur le Black Lives Matter, et après derrière sur le déboulonnage, associer les noms de rue. Et ça pose la question quand même de se dire, là c'est un très bon exemple pour le boulevard Jean Moulin, mais de se dire à un moment donné, est-ce qu'on efface, est-ce qu'on informe, est-ce qu'on transmet, est-ce qu'on laisse, mais on met 25 panneaux autour pour expliquer. Parce qu'effectivement, c'est pas aussi facile que simplement de se dire il y a des bons, il y a des méchants. Et c'est pas très simple en réalité de débaptiser. Donc ce qu'on fait souvent, c'est le débaptisement entre guillemets, c'est plutôt quand il y a des changements de lieu ou des rénovations, des réhabilitations. Là, pour ce qui est non pas de l'adresse, mais des lieux, là, la maison des habitants, des citoyens, on l'appelle comme ça. Peut-être qu'un jour, à l'occasion de l'inauguration, on lui donnera un nom, avec le nom d'une femme, peu importe, mais un nom. Donc là, c'est plus simple pour les noms de lieux, école, collège, etc. Cette question-là est mise en débat. Elle révèle quelque chose de notre époque à nous. À cette époque, on a commencé à se poser des questions sur la place de la femme. Et qu'en fait... il ne faut pas le voir comme simplement un côté passéiste, évidemment, les choses devraient être figées ou pas. Et c'est infini ça comme débat. C'est vraiment se dire, en fait, à un moment donné, ça révèle quelque chose. Que d'avoir pendant longtemps débaptisé ou d'avoir donné des noms plutôt que ceci ou que cela, Et là, ça révèle des choses. Au Moyen-Âge, en général, c'est ce qu'on y faisait ou ce qu'on y trouvait. Rue des Poissonniers, rue des Chapeliers, etc. Là, tout d'un coup, on s'est mis à donner des noms de personnes. Ça aussi, c'est un moment dans la toponymie, un marqueur assez fort historiquement, de se dire, on commence à donner des noms de personnes. Même si on avait commencé avec le duc, machin, etc.
Et puis, un choix politique, ça peut être un choix. Pas politicien, en fait. C'est simplement un choix de société dans laquelle...
De valeur, ou de... Voilà, exactement. Et rue du Doubs, tous ces noms-là, je le redis parce qu'on a évoqué avec certains, c'est comment on choisit les noms. Aujourd'hui, pas mal choisissent les noms aussi de manière apolitique. Il y a beaucoup de noms, la plupart. Parce que là, je vous ai dit, 6% et 42%, on arrive à peine à 50% de noms de personnes. Qu'en fait, voilà. Et là, ici, on a le quartier des cours d'eau, on va voir le quartier des oiseaux avec rue des Rossignols, des Roitelets, etc. Enfin voilà, et ça, c'est des choses qui sont complètement apolitiques. Et en général, notamment la promotion immobilière est très friande, ce genre de choses. Pour les lotissements, quand ils construisent des lotissements, notamment de maisons, là c'est plutôt en grande couronne en général, et ben, comme ils sont en charge des rues à l'origine, et qu'après c'est souvent rétrocédé, mais ils sont en charge des rues, et ben, ils donnent des noms de les œillets, les iris, etc. Mais ça, ils ne s'engagent jamais, et c'est comme le nom des opérations immobilières, dans un truc qui est un peu trop prise de position, quoi.
Et cette marche qui fut centrée sur les noms de rues féminins se termine à les Claude Cain, artiste qui s'identifie à un genre non-binaire.
Donc du coup, là on est allé, allé quoi ? Ouais, Claude Cain, figure nantaise, et là qui est, en plus il y avait une très belle rétrospective, hein, du coup expo, donc là ça y est, maintenant on resitue, mais peut-être qu'on le, effectivement c'est un travail aussi de c'est une sorte de marathon de fond, de toujours aussi reparler des gens pour resituer, pour pas oublier justement, mais c'était qui cette personne, etc. Donc là c'est la petite allée qui est ici, qui va jusqu'au lycée Camus. La boucle est bouclée aussi parce qu'on a l'épicerie communautaire Bellevue 2000, tout ce dont on a parlé, dans le, évidemment l'engagement associatif de Michel Palas. Claude Cain, c'est assez... Moi, je trouve, pour boucler la balade, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est né Lucie Schwab. C'est une fille, hein, une femme, avec un prénom très féminin, ou a priori exclusivement féminin, et qui a choisi de changer et de s'appeler Claude Cain. Donc un nom qui peut prêter à confusion. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, etc. Elle va tomber amoureuse de Suzanne Malherbe, une artiste, qui, elle, va aussi changer son nom et va s'appeler... Il y en a qui ça Vous l'avez Là, je vous ai vu faire... Alors, j'ai écrit...
Non.
Marcel Moore. Donc, M-O-2-R-E. Donc, je racontais l'anecdote. Si vous regardez sur l'INA, vous tapez Claude Cain ou... En tout cas, vous faites des recherches, vous verrez, il y a une super vidéo. On voit un critique littéraire qui, hyper enthousiaste à la lecture d'un livre, il dit, voilà, j'ai lu ce livre avec des très beaux textes, des très belles photos et des très, très jolis dessins, il faut le noter, qui sont en rapport avec... donc, c'est le travail d'un binôme, de deux messieurs, Claude Cain et Marcel. Et il se plante total. Il est persuadé d'avoir lu un livre, du coup, de deux hommes, évidemment. Peut-être qu'il ne l'a pas lu. Effectivement. Donc c'était assez rigolo parce que là du coup elle joue, bah, c'est une figure artistique, hein, et elle joue complètement, là ceux qui connaissent cette photo là, sur le t-shirt il y a écrit « I am in training, don't kiss me ». C'est-à-dire je suis en train de m'entraîner, ne m'embrassez pas, pour être soft. Et du coup elle joue vachement sur ce côté d'un coup homme, femme, et voilà, masculin, féminin. Ouais. En fait, ça, pour moi c'est vraiment une des meilleures conclusions pour la balade sur l'allée de Claude Cain, et puis en plus elle est voilà, ici cette allée dans le quartier Bellevue.
À l'issue de la balade, il reste une interrogation. Cette thématique des femmes dans la ville est-elle mise en perspective dans la transformation urbaine de Bellevue ?
Nous, justement, sur Mendes France, avec le projet d'urbanisme transitoire qui va se mettre en place, qui a commencé déjà à se mettre en place, mais qui va être vraiment très très fort à partir d'avril 2024, par l'installation d'aménagements spécifiques sur la place en attendant la reconstruction, pour continuer à vivre, hein, comme je le disais tout à l'heure, continuer à vivre sur... sur cette place, ou à revivre, parce que ça a été une place incroyable avec qui faisait communauté, où il y avait des commerces. Voilà, il y a eu du mésusage, aujourd'hui il y a de la démolition, et avant que ça reconstruise, comment on recrée cette place publique pour demain avoir une place publique pérenne. Et un grand enjeu de cet aménagement transitoire, c'est aussi de ramener les femmes dans cet espace public, ramener aussi bien les femmes âgées pour qu'elles puissent s'y asseoir, que les femmes en activité pour qu'elles aient des temps en fin de journée, pour se réapproprier l'espace, et pour les jeunes femmes, par différents biais, y compris par le sport. Et le sport, c'est pas nécessairement du foot, ça peut être plein de choses. Et justement, les urbanistes ont pensé un terrain de jeu qui ne soit pas un terrain de jeu rectangulaire, mais plutôt triangulaire, dans lequel on réinvente d'autres manières de se déplacer. Donc oui, l'enjeu évidemment autour des femmes est essentiel dans la ville en général, et dans ce quartier-là en particulier.
C'est la fin de ce mégaphone consacré à une petite balade de Bellevue. La prochaine a d'ailleurs lieu tout bientôt, le 24 avril prochain. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la ville de Saint-Herblain. À suivre à l'antenne un reportage Pensée locale, suivi de la formidable émission musicale Chemin d'Afrique avec Calomé. Très belle soirée sur Jet FM.
Mégaphone!
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne,
écologie,
économie sociale et solidaire, en Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone!
Le magazine de la rédaction de Jet. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Nous nous trouvons sur l'île de Nantes dans les locaux d'Hyperlien, un Fab Lab nantais. Fab Lab, c'est la contraction de l'anglais Fabrication Laboratory. Cette appellation désigne un espace où des machines et outils sont mis à disposition de tous pour la conception et réalisation d'objets. Aujourd'hui, ce sont les bénévoles et adhérents du Human Lab qui se réunissent. À l'origine du Human Lab, la page 44, association dédiée aux personnes en situation de handicap. Samuel Daboui, coordinateur de la page 44.
Le Human Lab, c'est un Fab Lab qui est orienté handicap, qui permet aux personnes en situation de handicap de venir, de créer un projet, une aide technique pour lui permettre de gagner en autonomie. Voilà. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont un projet autour du handicap, que ce soit tout handicap d'ailleurs, déficience sensorielle, déficience motrice, et des personnes qui ont un projet, que ce soit par exemple adapter une manette de jeu vidéo, que ce soit adapter un couvert pour pouvoir prendre son repas en autonomie, voilà, ça couvre tous les domaines de la vie quotidienne.
Le Human Lab propose un accompagnement dans la réalisation de projets. Mathilde Dantec, artiste plasticienne.
En fait, quand quelqu'un fait une demande auprès du Human Lab, donc c'est via un canal général, on va dire. Ensuite, on a défini qui prend quoi au sein des coordinateurs, coordinatrices de projets, bénévoles. Suite à ça, je vais rencontrer souvent avec une ergothérapeute les personnes. On s'organise des rendez-vous déjà pour se connaître, pour identifier clairement c'est quoi le projet, pour discuter un petit peu des pistes de réflexion déjà, prendre des mesures souvent en fait aussi. Et après, tout au long de la période de prototypage et de production, on peut aussi être amené à avoir d'autres rendez-vous, de nouveaux rendez-vous qui vont être plutôt du bêta-test en fait, voir si c'est efficace ou pas, de l'ajustement. Et en fait, on travaille un peu avec ce dispositif-là qui est itératif de on propose, on corrige, on propose, jusqu'à arriver à quelque chose qui se tient.
Du coup, il faut que je découvre l'autre partie.
Les montants, tu veux dire pour les...
Parce que du coup, on va plaquer les poches à l'intérieur. Et ensuite, on va refermer. Et ensuite, je vais devoir reposer la base sur la poche.
Aujourd'hui, on a une réunion pour travailler sur un projet de cape de pluie pour les personnes en fauteuil roulant.
Le projet de cape de pluie, ça vient en réponse à un certain nombre de besoins qu'on a reçus au sein du Human Lab, de personnes en fauteuil, notamment en fauteuil électrique, de répondre à un besoin d'une cape de pluie qui est adaptable, pas trop chère, facile à faire, et voilà, surtout la réponse du prix, qui est assez indécent, comme d'habitude dans le milieu du handicap, on va dire. Et donc voilà, on est là pour discuter un peu de ce projet, voir comment ça peut avancer à l'avenir et trouver des nouvelles personnes pour nous rejoindre. On est parti sur l'idée d'une cape en kit avec une base qui est donc une cape, un corps de cape en fait, qui serait donc adapté à la personne qui en fait la demande, et des modules amovibles en kit, un peu comme quand on choisit les options sur sa voiture. Et bien là, on choisit si on veut un col, si on veut une capuche, si oui, quelle forme de capuche, est-ce qu'on veut qu'elle soit ouverte à l'arrière. Voilà, on compose un peu pour qu'on ait un objet qui soit vraiment adapté à nos besoins et de ne pas être obligé de partir dans du système D et de la bidouille d'un objet déjà existant, comme c'est souvent le cas.
Le Human Lab accompagne donc à la réalisation d'objets adaptés aux besoins de chacun et propose également la mise à disposition de patrons pouvant être réutilisés par tous. L'élaboration des 10 patrons n'est pas toujours des plus évidentes.
Non, parce que la solution, au pire, on coupe. Et non, mais ça tient un temps, mais après, ça marche pas, tu vois.
Oui, c'est un truc solide.
Parce que le truc, après, ça doit donner un patron de prototype final qui est viable.
Oui.
Donc, ils vont pas recouper à chaque fois qu'ils vont faire un.
On le met dans la notice. Alors, attention.
Alors là, il y a peut-être pas adapter, trop de matière, on sait pas trop.
Recoupez, s'il vous plaît. On va le découdre, faire les poches et recoudre le socle.
Par contre, le tube, du coup, il est bon en termes de taille.
Normalement, oui.
Ok.
Si vous êtes en fauteuil roulant ou vous avez un proche en fauteuil roulant et vous souhaitez participer ou juste nous donner des retours, des besoins que vous avez, et n'hésitez pas à nous contacter, on a vraiment besoin de personnes.
L'espace du Human Lab est à retrouver dans les locaux d'Hyperlien au 5 rue Frida Kahlo, tous les jeudis de 15 à 21h.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage d'Elsa Grimaud pour Euradio à Nantes.